Europe 1, il est 6h.
Pas de justice, pas de paix, des manifestants à deux pas de la Maison Blanche. Forte tension cette nuit à Washington, la colère ne retombe pas. Une semaine après le décès d'un noir américain lors d'une interpellation policière, nous serons sur place dès le début du journal. La fin du 1 siège sur 2 à la SNCF, les places de TGV pourront être à nouveau réservées dès demain. Il piaffe d'impatience, bar, restaurant rouvre demain. Les derniers préparatifs dans ce journal, feu vert aussi pour les campings.
On a prévu une bande à l'entrée de l'accueil pour qu'une personne à la fois puisse rentrer. Et puis bon, on demande que les gens portent un masque. Dans les allées, oui, ils doivent le porter.
Dans ce journal, la stupeur des 400 salariés de Renault à Caudan, auprès de Lorient. Le site n'a pas vocation à rester dans le groupe, dit le président de l'entreprise. Et puis nous vous raconterons la campagne sous cloche pour le deuxième tour des municipales. Elle a repris, campagne sans contact. Il faut ruser pour intéresser les électeurs.
Le débat, c'est savoir si on pose les programmes sur la table ou pas. Pour limiter les risques de transmission, on a décidé de les garder dans le sac.
Votre invité à 6h40, Mathieu.
Le lundi de Pentecôte, journée de solidarité dans un contexte particulier, le chantier du financement de la dépendance avec l'économiste de la santé Frédéric Bizard en direct à 6h40 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Pas de justice, pas de paix, scandent ces manifestants. Washington, cette nuit à deux pas de la Maison Blanche, forte tension avec les forces de l'ordre, affrontements mais même et tirs de gaz lacrymogène.
Dans la capitale américaine, comme dans plusieurs grandes villes du pays, des milliers de personnes dénoncent les violences policières contre les Noirs américains, une semaine après le décès de George Floyd, mort étouffé lors d'une violente interpellation.
À Washington, pour Europe 1 en direct, Sonia Dridi. Sonia, racontez-nous, vous avez été le témoin de cette montée de fièvre aux abords de la Maison Blanche.
Oui, j'étais aux abords de la Maison Blanche en début de soirée. Au départ, l'ambiance était plutôt bon enfant. Il y avait des centaines d'Américains, des Noirs, des Blancs, des Latinos, beaucoup de jeunes. Ils scandaient Black Lives Matter, les vies noires comptent. Certains portaient un masque avec cette inscription. Je ne peux pas respirer. Ce sont les derniers mots de George Floyd. Puis la tension est montée. La police a repoussé des manifestants qui tentaient de s'avancer vers la Maison Blanche à coups de gaz lacrymogène. Des affrontements ont éclaté. Des voitures ont été brûlées. Un couvre-feu a été imposé de 23h à 6h du matin dans la capitale, mais des manifestants sont encore dans les rues. La garde nationale a été déployée dans la ville qui a par endroits des aires de zone de guerre. Donald Trump a dénoncé sur Twitter des gauchistes radicaux et il a annoncé que les antifascistes pourraient être désignés comme organisation terroriste. Alors selon le New York Times, le président américain a été emmené pendant environ une heure dans le bunker souterrain de la Maison Blanche vendredi soir. On ne sait pas encore s'il y est retourné hier soir.
Sonia Dridi en direct de Washington pour Europe 1. Manifestation à échauffourée aussi à New York, Dallas, Los Angeles, Miami, Chicago. Ces dernières heures, la garde nationale est déployée dans 15 États.
Quatre policiers sont impliqués dans l'arrestation violente et largement diffusée sur Internet. L'un des agents, semble-t-il, au lourd passé de violence, est inculpé d'homicide involontaire.
Manifestation aussi hors États-Unis à Londres hier. Des centaines de personnes. Soutien de grands sportifs. Michael Jordan, le basketteur, dénonce cette nuit un racisme enraciné. Côté français, mais sur les réseaux sociaux de Kylian Mbappé ou encore Yannick Noah. Et le footballeur Marcus Thuram, fils de Lilian Thuram, il a posé un genou à terre hier en hommage à George Floyd en célébration de l'un de ses buts dans le championnat allemand.
Europe 1, il est 6h04.
En France, les vacances d'été approchent et les réservations dans les trains vont aller crescendo. La distanciation dans les TGV, c'est fini. La règle des 1 siège sur 2 dans les TGV supprimée dès demain, annonce du secrétariat d'État aux transports, saluée par la SNCF qui va pouvoir remplir ses trains.
Mais attention, il reste encore plusieurs contraintes, bien sûr, à la SNCF, comme à la RATP d'ailleurs. Carole Ferry.
Fini l'obligation de laisser un siège vide entre les voyageurs. Dès demain, la SNCF pourra de nouveau remplir ses trains, comme c'est le cas pour les avions. Le port du masque, en revanche, reste obligatoire. Pour être rentable, la SNCF a besoin d'un taux d'occupation de 60% jusqu'à 80% dans les Ouigo, ce qui était impossible avec la commercialisation d'un siège sur deux seulement. Côté trafic, 50% des trains circulent actuellement. Il devrait y avoir progressivement une montée en puissance pour un retour à la normale d'ici le 24 juin. Avant les grands départs en vacances. À noter, les réservations seront obligatoires dans les TGV, mais aussi les TER. Voilà pour la SNCF. À la RATP, la volonté là aussi est d'avoir plus de monde dans le métro, les bus et le RER dès demain. Jusqu'à 50% de taux d'occupation contre 20% actuellement. Les conditions restent à préciser. Un décret doit être publié dans la journée. Là aussi, le port du masque reste obligatoire. Pareil pour l'attestation aux heures de pointe. Enfin, plusieurs stations de métro devraient rouvrir sur les 62 encore fermées.
Lundi de Pentecôte, et si vous travaillez, sachez que cette journée devrait financer cette année à hauteur de 3 milliards d'euros la solidarité aux personnes âgées dépendantes.
Ils sont prêts, plus que jamais. Restaurants, cafés rouvrent demain après 2 mois et demi de rideaux de fer baissés. Réouverture complète, salle plus terrasse dans les zones vertes.
Réouverture aussi des campings dans ces zones. Les tout derniers préparatifs, Maximilien Carlier au Camp des Roses à Aubert près de Lille.
Camp des Roses, bonjour.
Derrière sa vitre en plexiglas, Maurice décroche le téléphone plus souvent que d'habitude. Des réservations, oui, il y en a, mais ce gérant se préoccupe surtout des règles sanitaires.
On a prévu une bande à l'entrée de l'accueil pour qu'une personne à la fois puisse rentrer. Et puis bon, on demande que les gens portent un masque. Dans les allées, oui, ils doivent le porter.
Environ 120 emplacements dans ce camping, principalement des mobilhommes. À chaque départ de résident, du travail supplémentaire, comme l'explique Blandine.
La contrainte, ça sera quand ils vont devoir partir, on va passer plus de temps à tout renettoyer, le moindre recoin avec le verrucide.
La douche avant d'entrer dans la piscine.
Elle fait 25.
Limitée à 10 personnes, habituellement c'est 35. Mise en place de créneaux avec un planning.
Les gens viendront réserver leur moment piscine pour respecter après le temps et pouvoir laisser la place aux autres personnes.
Et dans les blocs sanitaires, des toilettes et lavabos seront condamnés afin de respecter le mètre de distance. Aubert, Maximilien Carlier, Europe 1.
La fonderie de Bretagne n'a pas vocation à rester dans le groupe Renault. Les mots hier de Jean-Dominique Sénard, patron de Renault, stupeur des 400 salariés de l'usine bretonne située près de Lorient.
Renault, comme tout le secteur, durement frappé par la crise économique. Le constructeur doit économiser 2 milliards d'euros. Vendredi, la direction a affirmé que le site de production de pièces détachées ne fermerait pas. Pourrait-il alors être cédé ? L'idée laisse sceptique Fabien Gache, délégué CGT Renault.
Considérer qu'il y aurait un avenir en dehors de Renault avec un repreneur, ça n'a pas de sens. Ceux qui connaissent la situation des fonderies en France savent parfaitement bien que toutes celles qui ont été rachetées, je pense en particulier aux fonderies du Poitou, et qui aujourd'hui se retrouvent confrontées à une baisse d'activité telle que leur survie est aussi directement en question. Et Sénard a bon dos d'expliquer la main sur le cœur qu'il n'y aura pas de problèmes sociaux. Il n'empêche que ces gens-là vont être les premières victimes. Et à l'évidence, il est capable de tenir un discours mensonger, parce que la seule obsession, c'est de se séparer de cette activité.
Autre usine menacée, Maubeuge, où plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi. Je n'ai aucune intention de fermer ce site, a affirmé hier Jean-Dominique Senard.
Europe 1. Dans un tout petit instant, la suite du journal de 6h sur Europe 1. Pas de poignée de main, pas de réunion publique, pas de porte à porte. On va vous raconter la drôle de campagne du deuxième tour des municipales. A tout de suite.
Europe 1, il est 6h10, la suite du journal, Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
Maintenir les électeurs à bonne distance physique, un comble quand on ambitionne de les séduire. C'est pourtant la drôle de campagne que mènent les candidats encore en lice. Au second tour du scrutin municipal, les militants sont de retour après plus de 2 mois d'arrêt.
Second tour donc le 28 juin, 5000 communes concernées dont beaucoup de grandes villes. Il faut convaincre, mais les réunions publiques sont interdites, pas de poignée de main. Claudia Bertram a suivi le retour de l'équipe d'Anne Hidalgo sur un marché parisien.
Colle des affiches pour pouvoir être vu de loin.
Fini les déambulations à la rencontre des habitants. L'équipe, très réduite, installe un point fixe sur le marché. Grandes affiches derrière une table préalablement désinfectée. Mais il y a encore des hésitations sur la meilleure façon de respecter les règles sanitaires.
Le débat, c'est savoir si on pose les programmes sur la table ou pas. Pour limiter les risques de transmission, on a décidé de les garder dans le sac.
Finalement, seuls 2 flacons de gel hydroalcoolique sont posés sur la table. L'installation attire l'œil des passants et certains osent même s'approcher.
Bonjour.
Voilà, c'est bien.
Échange à distance et masqué, c'est une campagne bien particulière, note Éric Pliez, la tête de liste.
Le masque complique les choses parce qu'on peut ne pas se serrer les mains et par le regard, par le sourire. Donc c'est vrai que le masque, il n'y a plus que le regard. Donc voilà, c'est acquérir d'autres habitudes.
Et ceux qui s'arrêtent pour discuter ne semblent pas dérangés par toutes ces règles sanitaires.
De loin, bah ouais, bah quand même, ça fait plaisir.
Il faut que la démocratie continue.
Il faut le dialogue humain, c'est important.
Et très rapidement, les questions sur les masques ou la tenue du second tour laisse place aux grands sujets de la campagne, comme la propreté ou la végétalisation de la ville.
Les mystères et les anecdotes des sites que vous visitez en vacances, ils sont ceux qui vous éclairent, les guides interprètes et conférenciers. Le confinement les a frappés fort et pas vraiment d'éclaircies à l'horizon. Ils redoutent d'être les grands oubliés du déconfinement et des plans d'aide.
Bonjour Cécile Lenezet.
bonjour Mathieu.
Vous êtes la présidente de la Fédération Nationale des Guides, Interprètes et Conférenciers. 4000 personnes hein, en France qui exercent cette profession. Pourquoi est-ce que vous craignez d'être les grands oubliés? Quel impact a la crise sur votre métier?
Alors effectivement, la première chose, c'est que sur notre métier, c'est très dévastateur en ce moment, puisque depuis à peu près le 1er mars, même un peu avant pour les guides qui travaillent en chinois, on n'a absolument plus en fait de prestations, on n'a plus de travail. Il faut comprendre que souvent les prestations sont commandées un petit peu à l'avance, que ce soit des visites guidées en musée, en extérieur, etc. Parce que le guide conférencier en fait travaille sous des formes parfois très variées, des conférences en salle, des city tours, parfois des excursions à la journée, à la semaine, etc. Et c'est vrai qu'en ce moment, donc avec le confinement, les touristes étrangers sont repartis et puis les touristes français sont restés confinés comme les guides. Donc là, c'était déjà assez difficile. C'est d'autant plus qu'on dépend en fait de deux ministères, la culture et la communication d'un côté, et puis l'autre, alors en fait, c'est le secrétariat d'État au tourisme qui dépend lui-même du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et du coup, on dépend de deux plans, le plan patrimoine qui va être annoncé prochainement et puis le plan tourisme qui a été annoncé dernièrement et dans lesquels, en fait, on a un peu été oublié. Alors, quand je dis un peu, je peux donner un exemple assez précis. On a beaucoup de guides qui travaillent en auto-entreprise et en fait, 75% d'entre eux ont été oubliés. Pour une histoire un peu surprenante, quand on est auto-entrepreneur, on a dès le départ un code qui s'appelle un code NAF. C'est la nomenclature en fait des activités françaises et qui désigne votre activité principale. On appelle ça aussi un code APE. Et ce code n'avait pas été mentionné. Et donc
évidemment, ça voilà. Vous a exclu d'office rien que pour cette. Et ça, c'est un détail hein, par rapport à toute la situation que vous connaissez.
Comment voyez-vous la suite, Cécile Lenezé ? Il va falloir inventer une nouvelle façon de travailler ?
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, il y a des choses qu'on va demander au niveau des aides au gouvernement. Mais nous-mêmes, en tant que fédération, en tant que guide conférencier, on essaye bien sûr de rebondir, de nous adapter, d'avoir des idées, de vous proposer des nouvelles choses. Ça peut passer par exemple par la forme des visites virtuelles. Ça, c'est quelque chose qui est très important, qui connaît beaucoup de succès en ce moment au sein de notre fédération qui regroupe à peu près 1300 guides conférenciers sur toute la France, puisque en fait, on apprend aux gens comment faire des visites en visioconférence, ce qui permet en fait de faire des visites depuis chez soi, alors en présentant par exemple tel ou tel musée, mais à des clients qui peuvent se trouver de l'autre côté du monde, aux États-Unis, en Chine, etc.
Il va falloir
De l'activité.
Et donc de se réinventer, il va falloir se réinventer effectivement. Cécile Lenezé, merci beaucoup. Merci. Présidente de la Fédération Nationale des Guides, Interprètes et Conférenciers, merci d'avoir été ce matin l'invité en direct du journal de 6h d'Europe 1.
Et puis, ce sont avant tout des œuvres de beauté. Emballer le Pont Neuf à Paris en 1985 ou encore le Reichstag de Berlin 10 ans plus tard, les chefs-d'œuvre de cristaux, il trouvait ça beau, tout simplement, l'artiste plasticien est mort hier à New York, il avait 84 ans.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix. 6h15, vous êtes sur Europe 1, c'était le journal de 6h. À 6h30 tout à l'heure, nous serons avec François Geffrier.
Europe 1. La matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard et votre invité dans un instant.
L'organisateur des championnats de France de barbecue. À tout de suite.